Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
C'est votre rendez-vous du mardi soir, avec, je le rappelle, deux parties pour ce club sans heure, une partie en direct live à la radio jusqu'à 20h30 et une deuxième que l'on pourra suivre avec nos discussions en podcast sur radiototem.fr. Jean-Charles Virlogeux est avec nous, l'homme qui sera à moite-moite ce samedi. Bonsoir.
Bonsoir.
50% Rodez, 50% Monaco, car il ne pourra pas choisir son camp de supporters. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, dans cette émission du club sans heure. Et puis notre invité, premier buteur contre Pau, qui est également avec nous pour revenir sur les premières rencontres du RAF de 2024, Hakim Abdallah, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
On va revenir évidemment sur cette rencontre face à Pau. On pourrait presque même dire quel match, finalement. Quel match après l'ouverture du score, juste après la pause. On va y revenir évidemment de votre ouverture du score. Il y a eu le pénalty évidemment avec la main de Bradley Danger, le capitaine qui, après, a reçu évidemment son exclusion. Et puis, ses arrêts de jeu fous, finalement, avec le but signé Willy Tiounoussa. On va reparler évidemment de tout ça en détail dans les prochaines minutes. Mais avant ça, avec Jean-Charles, on s'est concerté. Et on s'est dit que c'était vraiment un match typique de Rodez. Un match que l'on pouvait évidemment revoir presque des centaines, des milliers de fois. Un scénario que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir, on est bien d'accord. Mais une équipe de Rodez, on a l'habitude de voir et qui est dans ses valeurs. Vous confirmez tout ça ?
Oui, bien sûr, je confirme. C'est vrai qu'on a fait un match ultra complet et on est très satisfait.
C'est vraiment Rodez avec des rebondissements, effectivement, un match à suspense. On sait que le quotient spectacle de Rodez est presque à son maximum depuis le début de la saison. Alors je sais pas si c'est pour vous plaire ou pas, mais en tout cas pour les supporters, on se doute que c'est quand même une chose intéressante quand on vient au stade de se déplacer pour voir des choses intéressantes sur la pelouse du stade Polignon. Bon, vous n'étiez plus sur la pelouse à ce moment-là, remplacé par Raphaël Lipinski pour le dernier quart d'heure, mais il a fallu encore puiser dans ce qu'on appelle le mental pour décrocher cette victoire, notamment à 10 contre 11, on le rappelle, Jean-Charles, dans les dernières secondes.
Ouais, on sent que cette égalisation, on sent que c'est toi, oui, on sent que c'est Rodez, effectivement, ce match, mais on sent aussi que cette égalisation de Pau et la façon dont elle est arrivée avec cette expulsion, elles ont un peu déboussolé l'équipe hein, pendant quelques minutes. C'est ce que vous ressentiez, vous, sur le banc ?
Oui, oui, c'est ce qu'on ressentait sur le banc. C'est vrai que dès qu'ils ont marqué leur but, ils ont poussé. Mais voilà, on a su faire, on a su garder le dos rond. Et la moindre occasion derrière, on l'a saisie et on les a punis directement.
Oui, c'est vrai que cette période de déstabilisation, un peu de flottement, Didier Santini l'a ressenti également sur le banc.
C'est vrai que ce pénalty et ce deuxième jaune sur Brad, ça perturbe un peu. Il restait 5 minutes, ça pouvait être très difficile. Voilà, on apprend tous les jours. Mais peut-être c'est ça aussi qui nous a poussé dans cette énergie, dans ce mental, dans cette... Ouais, de rien lâcher, de le finir pour lui. Et, parce qu'on était vraiment dans le dur à ce moment-là. Et je trouve qu'après, on a été... eux se sont peut-être aperçus que ça allait être plus facile. Et c'est souvent la concentration et la rigueur qui revient chez ceux qui sont à 10. Surtout quand ils ont une mentalité comme ça, quoi.
Hakim Abdallah, qui est notre invité dans le club Saint et Or. On parle évidemment du pénalty, notamment de ce week-end face à Pau. Question un peu tendancieuse. Pénalty, pas pénalty, selon vous, Hakim ?
S'il y a pénalty pour eux, il y a pénalty pour nous aussi en première.
Et c'est vrai qu'il y a eu une situation litigieuse en première mi-temps sur la main de Bradley Danger. Elle est effectivement à bout portant. C'est très compliqué de se retirer. Mais il a la main décollée du corps. Il étend sa surface corporelle, n'est-ce pas, comme on dit dans le jargon arbitral. Alors pendant longtemps, en tout cas, à Rodez, ce genre de coup dur, vous voyez, ce pénalty, cette égalisation, aurait scellé le sort de la rencontre. Et on aurait dit... Ah ben Rodez est pas verni, hein. Mais quand même c'est un match encourageant, hein. Il méritait mieux. Et en fait, vous avez montré une nouvelle fois, comme c'est déjà arrivé cette saison, votre capacité de réaction et à renverser quand même le match.
Oui, c'est vrai que...
Il y a un gros progrès là-dedans quand même cette saison.
Oui, il y a un gros progrès cette saison. C'est vrai que mentalement, on est vraiment une équipe très soudée. Et pour nous, tant que le match n'est pas terminé, on sait que tout est possible.
On sait que c'est le troisième but, cette règle du troisième, cinquième but qui sont déterminants dans les matchs de foot. Quand Rodez concède le pénalty, on a vraiment l'impression que malgré finalement la poussée de Pau pour revenir, c'est un peu vache hein, de voir Rodez se faire remonter comme ça. Un nul, ça aurait été mal payé pour vous ?
Honnêtement, oui. Un nul pour nous en tant que joueur, ça aurait été mal payé. Et après, on a eu cette occasion de Willy Tiounoussa qui a su mettre le but et ça nous a énormément fait du bien.
Bon, hormis les buteurs évidemment, vous, Wilete Younoussa, on peut mettre également au crédit de Wanis Taibi une belle performance, mais on va également souligner une autre belle performance, celui du gardien qui a débuté la saison en tant que numéro 2, qui est passé numéro 1 évidemment avec l'absence de Lionel Mpassi, de beau gardien de Beaux-Arrêts de la part de Sébastien Cibois. Justement, là aussi, je suppose que c'est une sorte de confiance en lui qui se dégage de votre part, puisque il n'était pas forcément très sollicité depuis le début de saison, puisque forcément il était sur le banc. Là, il répond présent.
Oui, c'est vrai que depuis le départ à la canne de Lionel Mpassi, Seb a pris le relais et personnellement, on a toute la confiance en lui. Et il a la confiance en nous, donc je pense que ça a payé sur ce match-là.
La gestion de l'avantage au score, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? On rappelle que les événements se sont enchaînés. 1-0 pour Rodez, puis 1-1, puis du coup, on en a parlé de ce scénario un peu fou dans les dernières minutes.
Oui, c'est vrai que c'est dur. Après, c'est toujours bien de marquer en premier. Après, derrière, malheureusement, on a pris ce penalty. Mais encore une fois, on a su faire le dos rond et on a su concrétiser cette dernière occasion.
Comment ça se passe justement au niveau de la gestion du score? Est-ce qu'on se dit on met les deux pieds sur le frein, on recule ou alors on continue notre jeu?
Non. Quand on a pris le but, c'est vrai qu'on voulait jouer le match nul. Mais après, on voyait qu'il laissait énormément d'espace. Donc nous, on a une équipe aussi qui en contre est très bonne. Donc on a su saisir cette occasion-là.
Et 1-0 pour vous, ça se passe comment dans votre tête?
1-0 pour nous, ça se passe... On veut mettre le deuxième. On veut mettre le deuxième pour pouvoir vraiment être en sécurité.
Et le but vient finalement parce qu'il y a un coup de pompe physique, vous diriez c'est un pénalty, c'est un coup du sort, hein, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir reculé
Oui, je pense que collectivement, on a senti qu'on reculait un peu. Et donc après, voilà, on obtient ce pénalty-là et... Ça fait 1-1.
Ouais. Votre coach a reconnu que sur la dernière partie du match, le rapport de force s'était un peu inversé, effectivement, ce qui a amené cette égalisation.
Mais c'est sûr qu'après, en deuxième mi-temps, après le but, ils ont commencé à jouer beaucoup plus haut. Il y a beaucoup de qualité. C'est une équipe qui nous ressemble et on a perdu un peu le fil du jeu grâce à la qualité adverse. On a souffert les 15 dernières minutes. Il a changé pas mal de choses. Il a joué avec beaucoup plus offensif et on est mal sorti avec le ballon. On a eu pas mal d'opportunités de contre, mais à chaque fois, on revenait dans l'axe alors qu'il fallait rester sur les côtés. Donc là, on n'a pas bien joué sur ça. Mais on ne peut pas tout faire bien. Voilà.
Pau, qui avait déjà une équipe très offensive au coup d'envoi, en tout cas dans sa composition. 4 attaquants quasiment, une sorte de 4-2-1-3, même si il jouait assez bas. Mais vous avez été surpris par cette tactique, par cette compo d'équipe avec beaucoup d'attaquants dès le coup d'envoi?
Non, on n'était pas surpris. Hein. On savait qu'ils allaient jouer avec leur atout offensif et on savait aussi qu'ils avaient un bon banc. Et on s'est juste concentré sur notre match, tout simplement.
C'est vrai que Pau, ça fait partie des équipes un peu surprises de ce championnat. Mmh. On les voyait pas aussi haut dans le classement. On rappelle qu'ils étaient cinquièmes avant le coup d'envoi de la rencontre de ce week-end. Pourtant, c'est des budgets relativement similaires, par exemple, entre Pau et Rodez. Bon, Rodez fait également une belle saison depuis le début, mais c'est vrai que Pau, on les attendait pas forcément à ce niveau-là.
Ouais, une des meilleures attaques de Ligue 2 et qui, en plus, là, a carrément empilé les attaquants. Pour un piston, du coup, ça oblige à repenser son rôle un peu, à être encore plus vigilant que prévu quand on voit cette armada devant.
Oui, c'est sûr que ça demande beaucoup de concentration défensive. Et après, offensivement, apporter ce que je peux apporter à l'équipe, tout simplement. Mais c'est vrai que défensivement, c'est beaucoup de concentration.
Et tactiquement, on dirait que ça a marché, parce que vous avez bien... La première mi-temps a été bien gérée. Pau n'a pas été très, très, très dangereux. Il y avait beaucoup d'attaquants, mais un bloc relativement bas, finalement. C'est parce que vous l'avez bien contenu. Comment vous l'expliquez?
Oui, on a bien contenu. Après, sur leur contre, on était assez proche du porteur. Mmh. Et c'est ce que le coach nous a demandé. C'est quelque chose qu'on a bien fait. Et c'est ce qu'on a fait tout au long du match.
Mmh. Ouais, parce qu'en gros, c'était un peu leur objectif, des attaquants, mais qui vont vite. C'est vrai qu'on a vu Koudou, Silla, dans les couloirs. Il fallait les marquer.
C'est exactement ça. Ouais. Mmh.
Bon, c'est d'autant plus méritoire d'avoir été présent dans cette surface de réparation pour marquer. On rappelle que vous êtes le premier buteur de la rencontre. On a une question un peu taquine, mais qu'est-ce que vous faites là, à ce moment-là, de la rencontre, dans cette surface de réparation?
C'est tout simplement, je récupère le ballon. Et je décale Kylian sur le côté et je poursuis l'action, tout simplement.
Bien placé, au bon moment, au bon endroit.
C'est ça, hein, bien
placé. Ce qu'on appelle le flair.
Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai poursuivi l'action et derrière, ça,
Ça paye. Ouais, bien sûr. Ça paye, effectivement. Bon, vous faites partie des joueurs qui tentent aussi également pas mal de frappes. Premier but de la saison, on en a évidemment parlé, mais c'est vrai qu'on ne vous connaît pas forcément beaucoup dans ce registre-là.
Oui, c'est vrai qu'on ne me connaît pas beaucoup dans ce registre-là. Après, voilà, c'est...
Vous le travaillez ?
On le travaille souvent aux entraînements. Je le fais plutôt bien, d'ailleurs. Donc, tant mieux que ça paye ce week-end.
C'est vrai que Rodez est récompensé cette saison, souvent par la présence dans la surface. Il y a du monde dans la surface, il y a plusieurs solutions. Là, il y avait pour Wanis Taibi, Kylian, juste devant vous, et vous. Ça avait été travaillé, ce double appel ou...
Non, honnêtement, non, ça n'a pas été travaillé. Je vous dis la vérité, ça n'a pas été travaillé.
Ça a le mérite de la sincérité.
Mais c'est vrai que voilà, on travaille beaucoup en entraînement. Plus on est nombreux dans la surface, plus il y a des occasions de but. Et c'est ce qu'on fait en match, tout simplement.
Et oui, les fausses pistes, pendant qu'on marque un adversaire, forcément, on n'est pas sur les autres. Deux nouveaux buteurs, du coup, pour Rodez, hein, ce week-end, avec Willy T en fin de match. Et Didier Santini a d'ailleurs fait la preuve, après le match, de son pouvoir de persuasion. Écoutez.
Ouais, c'est marrant, parce que je les ai eus tous les deux en individuel cette semaine sur ça. Sur des stats, sur des datas, sur ce qu'il fallait qu'ils bossent. Voilà, pour être plus performant. Et comme je leur ai dit, vous foutez de moi, je parle de ça et puis vous me plantez tous les deux. Donc j'ai dit, je vous en parlerai plus souvent alors. Donc oui, non, c'est une anecdote, mais c'est vrai quoi. Voilà, on a parlé beaucoup de ça cette semaine avec Will et en individuel et avec Ako. Et je pense qu'ils font le geste qu'il fallait et ils étaient là au bon moment.
Bon, avant de poursuivre les choses sérieuses et la discussion sérieuse, Ako, c'est votre surnom, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
On peut vous appeler comme ça aussi,
oui,
par exemple, lors des commentaires de match ?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Ok. On va revenir évidemment à la discussion qui nous intéresse et justement cette discussion que vous avez eue, vous, avec le coach. Ça veut dire que cette conversation, elle a eu directement des effets sur le terrain, sur vous ?
Oui, directement, oui. C'est vrai qu'on en a parlé assez souvent la semaine et ça paye ses fruits le week-end.
Est-ce que ça veut dire qu'il est lucide sur votre comportement en tant que joueur et qu'il attend peut-être un peu plus de vous ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il nous connaît assez, même très bien, même, et que ces mots ont eu un bon impact sur moi. Mmh. Et j'essaye tout simplement de lui rendre la monnaie de sa pièce.
Des discussions comme ça en individuel, vous en avez régulièrement ?
Ça arrive, oui. Ça arrive souvent. Oui.
C'est pour recadrer certaines situations, pour vous forcer à développer des compétences ?
Ça dépend. On parle de tout et de rien, mais là, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de ces datas-là, de... D'être assez décisif. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis très content.
On le sait que Didier Santini, c'est un coach qui a beaucoup d'affect et qui aime bien en apprendre davantage sur les joueurs, pas seulement que sur l'aspect football. Justement, ça vous aide à lui rendre un peu sa monnaie de la pièce, comme vous l'avez dit, à finalement faire les efforts sur le terrain, à se dépouiller, comme on dit ?
Ah oui, bien sûr. Je pense que même tous les joueurs d'ailleurs... font le nécessaire pour lui rendre la monnaie de sa pièce et je pense qu'on le fait assez bien.
C'est votre type de coach, c'est-à-dire coach pas papa, on va dire, hein, mais qui aime bien s'intéresser à vous, à ce que vous faites en dehors du foot ?
Oui, en tout cas pour moi, ça me fait énormément de bien.
Et quand c'est comme ça, du coup, quand il vous donne des conseils ou des consignes, l'idée c'est de les appliquer tout de suite ? C'est pas de se dire, bon, on verra ça dans 2-3 semaines.
Oui, l'idée, c'est de les appliquer tout de suite. Hein. Après, il y a des situations qui font que. Mais c'est vrai que l'impact que ça a eu sur moi, j'ai réussi à le montrer directement le week-end sur le terrain.
Ouais, et ça a payé dans les statistiques, effectivement.
Hakim Abdallah est notre invité dans le Club Saint-Heur. Vous connaissez, puisque vous êtes déjà passé dans cette émission.
Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je dis que globalement, la question, elle est compliquée.
C'est une habitude quand un joueur du Rodez Avey en football ou un membre du staff passe ici dans nos studios. C'est le rendez-vous de Jean-Charles Vire-le-Jeu, la fameuse question à la con.
Et vous allez voir, celle-là, elle l'est vraiment. On a été surpris, figurez-vous, de constater que c'était votre premier but sous le maillot Saint-Heur ce week-end. Et du coup, on se demandait, vous aussi, vous pensiez que vous aviez déjà marqué avec Rodez ?
Non, je savais que c'était mon premier but. Ouais.
Voilà, bon, la réponse est courte.
Mais qu'est-ce que ça vous fait justement, cette première étape, finalement, dans la vie de votre carrière avec Rodez, votre premier but ?
Ça fait énormément de bien et ça ne sera pas le dernier.
Ah, ça c'est une belle promesse. Comment vous expliquez que c'était que le premier ? Parce que vous êtes un piston dans le jeu de Rodez qui se projette. On se dit un piston à Rodez, il a forcément déjà marqué. Comment vous l'expliquez que ce n'était pas arrivé encore ?
Franchement, je sais pas. C'est vrai que j'arrive à me procurer des actions, mais malheureusement, ça va pas au bout. Mais aujourd'hui, tant mieux pour moi, j'ai réussi à marquer mon premier but avec Rodez.
Et bravo bien sûr à Willy T donc également, buteur lui aussi. Superbe mine, c'est vraiment un artificier en chef, hein, Willy T. Nous, ça, il ne fait pas les choses à la moitié. D'ailleurs, on arrive à le faire parler dans un micro que quand il marque, Willy T.
Sur le but, quand la balle était arrivée, je n'ai pas réfléchi deux fois. Je me suis dit il faut y aller et je l'ai mis forte et c'est concrétisé avec un but. C'était trop justif, ça me fait très plaisir avec... Vu que ça a été aussi un but de victoire, que ce soit pour moi et pour le club, c'est une bonne chose. En plus, on débute bien l'année comme ça, c'est trop cool. C'était la joie totale en fait.
Ouais, Willy T qui avait marqué contre Caen aussi.
Hein, oui, mais vous avez une mémoire de poisson rouge. C'était le 7 octobre dernier. C'était en 2023. Depuis, les résolutions, ça a été de vous projeter sur l'avenir et non plus de vous souvenir du passé. C'est, pour
ouais,
ça,
c'est peut-être pour ça. Willy T Younoussa qui, comme ma mémoire, a été porté disparu pendant quelques instants après le but, enseveli sous une montagne de joueurs venus célébrer la victoire avec lui. On l'a retrouvé, heureusement, juste après.
La victoire dans la poche, donc, avec donc 30 points au compteur, c'est bien pour vous, Hakim Abdallah, 30 points au début de la phase retour ?
Ah oui, c'est très bien. Je pense que tout le groupe est satisfait.
C'est tant mieux pour Rodez, évidemment. Et là, il y aura par contre une petite pause pour le championnat, avec le rendez-vous de ce samedi, avec le retour de la Coupe de France. Une chose finalement exceptionnelle pour Rodez, puisque la Coupe de France à Rodez, ce n'était pas arrivé depuis maintenant de nombreuses années. On va continuer notre discussion avec Jean-Charles Verlogeux, avec Hakim Abdallah dans le studio de Totem, dans le club Saint-Héor. Ça sera en partie podcast, Jean-Charles et Hakim. On va poursuivre notre discussion et on va s'intéresser à ce 16e de finale de Coupe de France face à Monaco. Vous avez hâte, Hakim ?
Oui, j'ai hâte.
Eh bien, ça tombe bien, nous aussi. Et on poursuit ces discussions sur notre site internet.
Le club sang et or sur Totem. Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
C'est parti pour la deuxième partie du club sang et or avec Jean-Charles Virlogeux toujours à nos côtés et Hakim Abdallah, le piston de Rodez, buteur ce week-end face à Pau. On a parlé du championnat dans cette première partie du club sang et or. On va s'intéresser maintenant à la Coupe de France, 16e de finale de la Coupe de France face à Monaco. On va planter le décor de ce choc et on va justement s'intéresser à cet adversaire pour commencer. On parlait justement du côté supporter de Jean-Charles Verlogeux qui était moite-moite. Vous allez savoir pourquoi, Hakim.
Oui, parce qu'effectivement, vous retrouvez Monaco un an après. Cette équipe, elle a changé comme la vôtre, on a envie de dire. Est-ce qu'elle est plus forte que l'an dernier ? Sur le plan comptable, c'est kiff-kiff. Hein. C'est quasiment le même nombre de points, quasiment le même nombre de buts inscrits ou encaissés que l'année dernière au même stade de la saison. Dans le jeu et l'organisation, peut-être, défensivement aussi, même si Monaco semble souffrir en ce moment de l'effet Cannes. Wilfried Tsingo et Mohamed Salisu y sont partis, respectivement avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Or, ils sont tous deux devenus des titulaires à l'ASM, quitte à pousser Guillermo Maripán sur le banc, le Chilien qui semble un peu dans le dur ces dernières semaines, au point de rappeler ce qui était arrivé à Camille Glick ou à Jemerson il y a quelques années. Deux superbes défenseurs face au jeu, mais qui souffrent quand ils sont pris dans leur dos. Maripán qui est peut-être aussi un peu perturbé par le mercato, les rumeurs qu'il envoie notamment vers le Stade Rennais. Dans ce contexte, l'arrivée de Taylo Kerrer, l'ancien défenseur du PSG pendant les fêtes, n'est pas une mauvaise nouvelle pour Monaco, malgré le scepticisme des supporters. On peut dire que contre Reims, d'ailleurs, il n'a vraiment pas été le pire en défense.
Bon, par contre, vous dites Taylo Kerrer.
Oui.
Ouais, non, pourquoi pas. On a entendu souvent Taylo Kerrer, mais vous dites Taylo Kerrer à l'anglaise. Il est passé par West Ham, on comprend. C'est votre accent anglais qui refait surface.
Monaco, c'est une équipe qui a démarré la saison un peu comme Rodez, Hakim, en partant du principe que tout va bien tant qu'on marque un but de plus que l'adversaire. Du coup, ça a donné des matchs spectaculaires, les plus emballants de la Ligue 1, jusqu'à ce que l'ASM se pose les mêmes questions que vous et tente de resserrer les boulons. Les matchs ont été moins résolument offensifs, pour d'autres raisons aussi. Déjà, il y a la blessure au long cours de Caio Henrique, le piston gauche qui marchait sur l'eau avant de se faire les croisés. Il est toujours co-meilleur passeur quand même de l'équipe, alors qu'il est blessé depuis le mois de septembre. En ce moment, d'ailleurs, Monaco est particulièrement déplumé sur ce flanc gauche, car Ismaïl Jacobs est lui aussi à la canne avec le Sénégal. Du coup, c'est le jeune Kassou Ouattara, 20 ans, qui a débuté les deux dernières rencontres à ce poste. encore jeune, mais vrai appétit pour le duel, la récupération et la projection. Il faudra quand même le surveiller. D'ailleurs, vous n'avez pas été approché par Monaco, Hakim, au moins.
Ah, pas que je sache.
Ah, parce que comme il cherche peut-être du monde sur ce côté-là, vous savez que c'est arrivé à Guy Lacombe, qu'on a entendu sur notre antenne ce matin, l'ancien coach de Monaco. Il avait découvert, après coup, que lors de la finale de Coupe de France en 2010, Néné avait déjà signé chez l'adversaire du jour, le Paris Saint-Germain, et qu'il n'avait pas forcément beaucoup forcé en finale pour les rouges et blancs ce jour-là. Bref, Monaco moins flamboyant dans le jeu aussi, parce que Folarin Balogun, la recrue vedette de cet été, peine un peu à faire honneur à son statut. On a encore pas beaucoup vu le killer des surfaces que l'Américain avait été à Reims la saison dernière. 4 buts, le dernier remonte à novembre. 35 tirs pourtant, déjà tentés, autant dire que ça va pas souvent au fond pour l'instant. L'an dernier, il en était déjà à 8 pour arriver à un total de 21 en fin de saison. On espère qu'il ne se réveillera pas samedi à Paul Lignon. L'homme en forme en ce moment à l'ASM, c'est Wissam Ben Yedder. Alors que jamais son avenir ne s'est inscrit autant en pointillé sur le rocher, il se paye le luxe de mettre un peu le doute dans la tête de ses dirigeants. 10 buts cette saison, dont 5 sur les 5 derniers matchs qu'il a joués. En championnat, c'est bien simple, quand Ben Yedder tente une frappe, plus d'une fois sur deux, c'est cadré, et plus d'une fois sur trois, c'est un but. Malgré ses déboires judiciaires et malgré ses 33 ans, on peut se poser la question, est-ce que l'intérêt de Monaco, ce ne serait pas de refaire signer l'ancien Toulousain au sens du but quasi inégalable?
Monaco 4e de Ligue 1 au moment où on se parle. Est-ce que cette équipe, et précisément ce joueur, Wissam Ben Yedder, vous en êtes ravi d'affronter tout ça, vous, Hakim?
Oui, bien sûr qu'en tant que joueur, ça fait toujours plaisir d'affronter une équipe de Ligue 1, surtout Monaco, c'est une très belle équipe, et je pense que ça va être un très beau match samedi à Paul Lignon.
Si on pousse un petit peu cette confrontation entre Rodez et Monaco, on est en pleine période de mercato, est-ce que c'est le moment de se montrer quand on joue une rencontre aussi entre guillemets importante, ou en tout cas contre un gros calibre du championnat de France?
Après, se montrer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est... Oui, c'est vraiment l'idéal pour faire un bon match, ça c'est sûr.
Sur le plan offensif, on rappelle que Minamino est également absent. Il est retenu avec le Japon à la Coupe d'Asie. En revanche, l'un des autres facteurs X de cette équipe avec Ben Yedder, Alexander Golovin, sera bien là.
Même question, ça fait plaisir ou ça fait peur de croiser ce genre de joueur?
Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça reste du football. C'est des êtres humains comme nous tous. Et ce qui fera la différence, c'est juste, je pense, l'efficacité, tout simplement.
Bon, vous avez senti en tout cas une analyse très fine de la part de Jean-Charles Virelogeux.
C'est l'avantage de regarder tous les matchs de Rodez et ceux de Monaco aussi.
Et pour cause, il a la garde-robe effectivement de Monaco à la maison. On va continuer justement sur l'analyse de Monaco avec vous, cher Jean-Charles.
Il faudra faire attention aussi évidemment à la paire de récupérateurs, qui est un peu le baromètre de cette équipe, Zakaria Fofana. En gros, quand Zakaria Fofana vont, tout va. Plus généralement, si on regarde un peu les tendances, les temps forts, les temps faibles de cette équipe, Monaco attaque fort chacune de ses mi-temps. Attention, en particulier après la pause. Globalement, d'ailleurs, Monaco parle avant l'heure de jeu. 75% de ses buts sont inscrits avant la 60e minute. Seulement 15% dans le dernier quart d'heure, alors que c'est la période la plus prolifique en général parmi les clubs de Ligue 1. Alors on pourrait dire que c'est une caractéristique de championnat, mais si on se rappelle bien contre vous l'an dernier, c'était déjà comme ça. Ils avaient attaqué fort et puis après ils s'étaient un petit peu endormis, et au tour précédent contre Lens c'était pareil. Généralement Monaco démarre avec de très bonnes intentions, et si elles ne sont pas récompensées, il peut y avoir du découragement et un vrai manque de tranchant en fin de match.
Est-ce que justement d'avoir joué contre Monaco la saison dernière et de les avoir battus, c'est un avantage ou c'est un handicap, puisqu'on va pouvoir se dire ils vont jouer le couteau entre les dents et ils vont vouloir avoir leur revanche?
Après, je pense que c'est sûr qu'ils vont vouloir avoir leur revanche. Mais après, nous, en tant que joueurs, ce match-là, on va l'aborder comme un match de championnat.
On parlait de la paire Zakaria Fofana, quand elle va, cette paire tout va. On avait dit la même chose à Serge Philippe Royao, quand il va, tout va du côté de Rodez. Il a fait un match plutôt solide également face à Pau, et on a vu que Rodez est ressorti de là avec 3 points de plus au niveau du championnat. Bon, Rodez, c'est donc maintenant à quoi s'en tenir avec les explications de Jean-Charles. J'espère que ça va vous servir, et notamment les débuts de match et les débuts de seconde mi-temps. Vous avez vu, il va falloir être attentif. Rodez va quand même passer une sacrée étape du feu en défense, d'autant que le match de Pau a laissé quelques petites traces. On parle de blessure, Joris Chougrani qui est vraisemblablement out pour plusieurs semaines. Bradley Danger sera suspendu par rapport à son carton rouge. Samedi soir, il était assez philosophe sur le fait de rater ce match de coupe. Aujourd'hui, avec du recul, vous en avez parlé avec lui, il n'est pas trop déçu quand même?
Oui, on en a parlé. C'est vrai qu'il est déçu. Mais après, voilà, ce carton rouge, il est un peu sévère. Il va juste s'expliquer un peu avec l'arbitre. Et l'arbitre, je pense qu'il prend un peu mal les choses. Et directement, il lui met ce deuxième jaune et ça lui amène au rouge.
Surtout c'est qu'il est parti avec son président après le match, hein, voir M. Lesage pour essayer de faire encore un petit peu de...
De lobbying.
On verra avec la commission de discipline.
Généralement, deux cartons jaunes, c'est un match de suspension automatique et puis on en reste là, on reste de bons copains. Normalement, ça ne devrait pas aller plus loin, sous réserve, et on prend des pincettes, évidemment. Et puis devant la défense, on se pose aussi la question de l'état de santé de Giovanni Hag, sorti en fin de match, et pour qui on redoutait un léger problème au genou.
C'est pas entraîné aujourd'hui, hein, Giovanni Hag.
Rodez qui va devoir donc innover dans le secteur défensif samedi, avec du temps de jeu probable pour Stone Mambo, que l'on a vu que très peu en championnat et que l'on a vu par contre sur différents matchs de Coupe de France. Ça sera le cas également pour Kevin Boma. On va peut-être même voir les deux des titulaires des samedis. Pas de quoi en tout cas inquiéter votre coach Didier Santini.
Il y a des défenseurs centraux qui sont de la qualité. À un moment, c'est mes choix, mais quand Stone a fait des super matchs en Coupe et la qualité, et c'est peut-être le joueur à qui j'ai moins donné de chance, alors que c'est le plus grand professionnel de l'équipe. J'en ai parlé aussi cette semaine avec lui. Comme j'ai dit un jour au joueur, s'il y en a un qui a le droit de me taper dessus et de m'insulter, c'est bien lui, pas les autres. Avec leur temps de jeu, s'ils font la gueule quand ils jouent pas, lui, il a eu très peu. La première entrée, c'est Annecy, il méritait. Il avait fait un très bon match en coupe, il avait mis en entraînement, il montre beaucoup de qualité. Puis Kevin aussi, qui était titulaire l'année dernière à un certain moment, qui a une grave blessure et qui revient et qui bosse bien. Donc voilà, il y a de la qualité. Maintenant, c'est, football, ça va vite. Il faut prendre l'opportunité. Quand tu la saisis, il faut la saisir au bon moment. Ça va peut-être être le moment.
Jean-Charles Vierlejeu et Hakim Abdallah qui sont avec nous dans cette deuxième partie du Club 100 heures. Prêt à être défenseur central du coup, Hakim?
Ah, s'il faut jouer défenseur central, je vais jouer défenseur central.
En tout cas, Stone Mambo, Kevin Boma, effectivement, c'est ce qui s'appelle être propulsé dans la lumière au bon moment. Vrai gros test, parce que si Rodez avait fait tourner l'an dernier pour son exploit à Monaco, la défense centrale, elle, c'était plutôt des titulaires hein, quand même. Royao, Vandenabel, plus Abdennour, qui n'était pas toujours titulaire, mais qui avait été aligné pour faire des misères à son ancien club, et c'est ce qu'il avait fait.
Quel souvenir vous gardez de cette rencontre face à Monaco la saison dernière, Hakim?
On garde un bon souvenir. C'est vrai que c'était un bon match. Et ils ont marqué vite d'entrée. Mais voilà, on a su faire le dos rond et avoir ces opportunités pour pouvoir renverser la situation.
Vous étiez entré en cours de jeu. Vous avez encore des souvenirs de tout ça, de comment s'était déroulée cette rencontre, de l'euphorie de la fin de rencontre?
Oui, bien sûr. C'est vrai que c'était un match plein d'euphorie. On a su revenir au score, puis après passer devant et tenir le résultat pour passer au prochain tour.
Et ce sont les supporters avéronnais qui avaient mis l'ambiance hein, dans ce stade, parce que sinon ça sonnait un petit peu
creux.
C'est
compliqué de compter sur les supporters monégasques à Monaco.
Ah bah surtout sur ce genre de match, effectivement. Vous n'aviez pas tiré lors de la séance de tir au but. C'est pas votre truc ou il y avait trop ou assez de volontaires, on va dire?
Moi, il y avait assez de volontaires.
Ok. On verra.
Est-ce que c'est votre truc quand même? Est-ce que ça vous intéresserait de tirer éventuellement un
penalty? Ça me dérange pas du tout. Si je dois tirer,
je tirerai. Si
vous
êtes le dixième tireur, par exemple, vous
Exactement.
Le ferez.
Exactement.
On verra samedi, on sait jamais.
Après, c'est vrai que c'est une spécificité. Hein. C'est un geste. Ça se travaille évidemment à l'entraînement. Il n'y a pas de science exacte. Hein. On le sait que des très grands joueurs ont loupé des pénaltys, mais je suppose qu'il y a des petits trucs et astuces finalement. On regarde un petit peu le gardien, ça s'analyse.
Ouais, bien sûr. Je pense que l'astuce première, c'est de regarder le gardien, de voir un peu près où il va aller, et puis après.
C'est d'y aller au feeling.
Au feeling, si t'as un côté préférentiel, tu restes dessus, et puis voilà, ça passe pas.
Bon, samedi, si ça va au tir au but, il faudra peut-être y aller, Hakim, parce que les séances de tir au but à rallonge, Monaco, on a connu plusieurs, hein, en Coupe d'Europe et contre Lens au tour précédent, ces derniers temps.
Effectivement. Et puis, on sait que, notamment Sébastien Cibois, alors est-ce qu'il sera aligné titulaire, on verra ce week-end, mais Sébastien Cibois, c'est quand même un de ses trucs aussi, les pénaltys. Bon, ben voilà, par rapport à cette discussion autour de Monaco, on va terminer notre discussion avec Jean-Charles Vierlejeu et avec Hakim Abdallah sur un sujet un peu qui vous concerne.
Le club sang et or sur Totem.
Un peu moins Jean-Charles, un peu plus Hakim. La CAN, évidemment, pas de sélection, en tout cas pas de selon les statistiques pour Jean-Charles Vire-le-Jeu. Pour vous, par contre, il y en a, Hakim. On va revenir rapidement sur votre parcours. Piston gauche donc, de cette équipe de Rodez. Piston, c'est un terme qui vous va?
Oui, latéral. Piston, latéral, dans tous les cas, je joue.
Tant que vous êtes titulaire, ça vous va.
C'est ça.
Formé à Troyes, vous avez rejoint le club de Rodez en 2022, à l'été 2022, en provenance de Grenoble, pour un contrat de 3 saisons. Vous êtes international comorien et vous avez participé aux éliminatoires de la CAN 2023. Malheureusement, le groupe était peut-être un petit peu trop costaud. Troisième de la poule, les Comores terminent donc à 6 longueurs des Zambiens qualifiés, eux, pour cette CAN 2023. Ils ont même eu le luxe de terminer devant la Côte d'Ivoire, qui est le pays hôte de cette CAN 2023. Quatrième, c'était le Lesotho. 7 sélections avec les Comores, avec notamment des rencontres amicales depuis 2017. Et pourtant, il y a eu une petite période où vous n'étiez plus dans cette sélection. Vous avez retrouvé le chemin de la sélection. Ça représente quoi, justement, pour vous?
C'est une énorme fierté. C'est une énorme fierté de pouvoir représenter son pays. Donc voilà, le sélectionneur a fait appel à moi, j'ai répondu présent.
Au début de votre aventure internationale, vous étiez très jeune.
Oui.
Comment vous avez appréhendé tout ça?
C'est vrai qu'au début, j'appréhendais énormément. Je ne savais pas où me placer, comment faire, je ne savais pas trop quoi faire. Mais c'est vrai que le groupe m'a mis assez à l'aise et tout s'est bien passé.
Est-ce qu'on a peur de déplaire, même décevoir?
Oui, bien sûr qu'on y pense. Et surtout à ce moment-là, j'étais très jeune, j'avais cette pression en moi. Mais voilà, le groupe m'a très bien accueilli et ça s'est très bien passé.
Quand vous disiez ne pas savoir où vous mettre, c'était dans la vie du groupe ou sur le terrain?
Non, dans la vie du groupe, ouais. Dans la vie du groupe, voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'anciens. J'étais avec Jamal Atoyi, on faisait partie des jeunes, donc c'est vrai qu'on ne savait pas trop où se situer.
En tout cas, il y a eu cette petite bulle d'air dans ces sélections où vous n'avez pas retrouvé le chemin de la sélection durant quelques années. Puis, c'est revenu, notamment avec ce changement d'air avec Rodez. La CAN qui a débuté le week-end dernier, est-ce que c'est une petite déception de ne pas y participer?
Oui, bien sûr que c'est une déception. Mais voilà, aujourd'hui, avec la sélection, on a fait deux gros matchs pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Et maintenant, on va attendre le prochain rassemblement.
Les schémas de qualification, à la fois pour la CAN ou pour les Coupes du Monde, c'est compliqué pour des pays africains?
Oui, c'est énormément compliqué. Mais après, voilà,
Trop compliqué?
Trop non. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de rigueur.
C'est vrai que par rapport à des continents comme l'Europe, il y a moins d'appelés. Il y a beaucoup de pays, mais il y a moins d'appelés pour ces compétitions comme la Coupe du Monde. Alors évidemment, pour la CAN, vous allez me dire, forcément, les pays européens, ils n'y participent pas. Mais pour la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a moins de place pour les pays africains que pour les pays européens. Vous sentez que c'est une petite injustice? Comment vous le vivez?
Moi, personnellement, c'est pas trop mon domaine. C'est pas trop mon domaine. Nous, voilà, c'est... Quand il y a des matchs de qualif, on est là, on les joue. Et après, le reste, c'est pas trop mon domaine.
À fond pour se qualifier tout de même?
Exactement.
Ok, vous suivez quand même la CAN?
Oui, je suis.
Par Lionel Mpassi, par exemple?
Oui, on sait qu'il joue demain, mais aussi les autres nations, on suit.
Contre la Zambie, je crois, justement. Non,
c'est ça.
Il attaque demain. Ouais, on lui souhaite bonne chance.
Bah, évidemment, on souhaite bonne chance au portier de Rodez qui va manquer quelques rencontres avec Rodez, mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien pour lui. Comment vous le voyez, ça? Est-ce que c'est une déception collective pour Rodez ou est-ce que vous dites, c'est bien pour mon pote, il a une expérience aussi à vivre pour lui?
Non, au contraire, c'est très bien pour lui. Je pense que c'est une très belle opportunité pour lui et son pays. Et on est totalement derrière lui pour qu'il fasse des bons matchs et surtout qu'il se qualifie.
Bon, le coup d'envoi de sa compétition, en tout cas, on vient d'en parler, c'est demain. Dernière question au niveau de ces rassemblements, de ces sélections nationales. Est-ce que ce n'est pas trop contraignant justement de se déplacer, la fatigue? On sait que vous avez parfois même refusé de vous y rendre par rapport à des questions de fatigue. Est-ce que c'est dur physiquement, mentalement?
Oui, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Physiquement, mentalement, c'est très dur. Et après, voilà, y a des rassemblements qui, pour les matchs de qualif qui sont importants. Et tu as d'autres rassemblements où on fait des matchs amicaux où là, tu as entre guillemets le choix d'y aller ou de ne pas y aller.
Et là, on pèse le pour et le contre. On se dit, en championnat, c'est pas le moment d'aller se mettre dans le rouge.
Oui, c'est ça, exactement. On en parle avec le sélectionneur, on en parle aussi avec le club, et on trouve un beau compromis.
Ouais, s'il y a des intérêts, évidemment, pour le club, moins d'intérêts pour la sélection, peut-être qu'on peut privilégier le club, alors qu'évidemment, je suppose que quand il y a des intérêts également pour la sélection nationale, là, il y a des réelles discussions, des réels échanges à ce sujet-là.
Oui, voilà, c'est exactement ça.
Ok.
Et vous vous dites pas, si j'y vais pas, je vais laisser passer mon tour, on va prendre ma place. C'est une petite appréhension, ça?
Non, pas du tout. tout. Après, si on doit prendre ma place, on prendra ma place dans tous les cas. Voilà, ça sera le choix du sélectionneur. Mais voilà, tant que ça se passe, tant que les discussions se passent bien entre le club et la sélection, il n'y a pas de quoi se faire de mal.
Un pronostic pour la CAN, selon vous, Hakim Abdallah?
Pronostic de
qui va remporter cette CAN 2023?
Cette CAN, franchement, j'en ai aucune idée.
Ah, c'est vrai que c'est dur. Sur le papier, il y a de belles équipes, évidemment, et notamment la Côte d'Ivoire qui reçoit dans son pays. Bon, on sait qu'il y a d'autres équipes qui sont des spécialistes de la compétition. On pense notamment à l'Égypte, mais c'est vrai qu'il y a de belles équipes sur ce continent. Et la lutte va être acharnée. Bon, Hakim Abdallah, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de passage dans nos studios par rapport à ces événements, à la fois la CAN, à la fois la Coupe de France, à la fois votre but en championnat. Merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
On vous souhaite de passer une bonne semaine d'entraînement et on vous retrouve samedi avec un horaire inédit. Vous l'avez noté dans votre agenda.
Hein. 17h30.
Ouais, le coup d'envoi sera... Ouais,
n'arrivez pas au stade trop tard.
Ouais, ce sera un petit peu plus tôt que les rencontres de championnat. Jean-Charles, merci beaucoup. Bonne soirée. Et on se retrouve évidemment samedi pour un dispositif exceptionnel à partir de 17h. Jean-Charles.
17h, oui. Une demi-heure d'avant-match. Il faudra bien ça pour planter le décor de ce choc de Coupe de France.
Merci à vous deux et belle soirée.
Le club sang et or sur Totem.